bravo, merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Vous allez tous bien ce matin?
Oui.
Yes, moi aussi. Moi aussi. Bon, Dieu. On va faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animé par votre nature. Voilà ce que l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens. Et oui, c'est comme ça. Et ce matin, je voudrais vous parler au sujet de qui a la pensée de Christ. Là, il est en train de dire qui a la pensée de Christ pour l'instruire. Qui peut instruire Dieu? Qui a la pensée de Jésus-Christ? Il dit, mais nous l'avons. Donc il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui ont la pensée de Christ et ceux qui ne l'ont pas. Et puis même parmi ceux qui sont chrétiens, il y en a qui ont la pensée, une pensée de Christ enfantine. C'est ce qu'il dit. Enfantine, c'est encore leur nature humaine qui... Voilà. Mes frères et sœurs, je vais partir d'en bas pour aller un petit peu plus haut. Et je vais vous dire des vérités de base pour aller un petit peu plus loin après. Parce que il est temps maintenant, les choses vont vite, hein, les événements se précipitent. Alors, Dieu est un Dieu plein d'amour. Il ne faut pas en douter. Dieu est un être joyeux qui prend part à la vie, qui s'intéresse à toutes les expériences de tous les êtres. Il aime les pionniers. Il aime les gens qui ont conscience d'eux-mêmes. Il aime ceux qui créent, en fait. Dieu contemple leur création et se réjouit de voir qu'ils ont appris quelque chose. Alors, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu peux t'imaginer que Dieu en a marre de voir des gens qui le supplient, qui mendient, qui pleurnichent? Est-ce que tu peux t'imaginer devant Dieu, en train de dire à Dieu, « Hé, papa, regarde ce que j'ai fait. Est-ce que tu es fier de moi ?» Peux-tu t'imaginer comme un gamin qui dirait ça à son propre papa, charnel, son père ? Tu bricoles un truc, et puis tout fier, tu viens devant ton papa en lui demandant, « Tu trouves ça chouette ?» Moi, je me rappelle un jour, j'étais assis au jardin des plantes, parce qu'on avait notre café Martine Challenge pas loin. J'étais là, assis sur un banc, et je regardais les gens. Et moi, j'aime bien. Ma femme me dit, mais pourquoi tu regardes tout le temps les gens? Je regarde tout le temps les gens, c'est rigolo, c'est une mamie, quoi. Et puis, je voyais un petit gamin qui jouait dans le gravier. Là, sa mère était en train de tricoter sur un banc, parce qu'à l'époque, encore, les dames tricotaient. Hein, c'était dans les années 70. Et tout d'un coup, le gamin, il a trouvé un papier, vous savez, c'est les papiers qui entourent les glaces. Alors évidemment, c'était plein de crème fondue et tout, mais ça brillait. Alors il l'a ramassé, puis en trottinant comme ça, il est arrivé vers sa maman, il a dit, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Et puis, il lui donne, alors la mère a pas dit, oh, c'est dégoûtant, cache-moi ça, pour moi servir. Non, elle l'a pris, elle a dit, merci mon chéri, c'est super, ça brille, hein, c'est beau. Et puis elle a laissé le gamin aller jouer. Elle s'est levée, elle l'a mis dans une poubelle, parce qu'à l'époque on avait encore de l'éducation, on mettait les choses dans les poubelles. Enfin, pas tout le monde, déjà il y en avait qui les fichaient par terre, puisque le gamin l'a trouvé par terre. Mais voilà donc, Il faut être comme ça avec son père, même des trucs qui sont un peu bébêtes, il prend soin, il regarde, il est content. Si nous on est content, il est tout fier de nous. Est-ce que tu as déjà fait ça en tant qu'enfant de Dieu avec ton Père Céleste? Ton Père Céleste, il veut pas que tu aies peur de lui. Oui, mais Michel, il est quand même écrit qu'il faut la crainte de la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui, mais moi, bien sûr, parce que un enfant, il craint son père. Moi, je craignais mon père parce que je savais que c'était un adulte et que moi, j'étais un enfant et que voilà, il me corrigeait, il m'éduquait. Mais c'est pas une peur. C'est surtout la crainte de lui déplaire. Alors, même si tu fais une bêtise, il veut pas que t'aies peur de lui. Dans la Sainte Bible, c'est pas comme ça que ça marche. Il veut que tu aies avec lui une relation père-fils, père-fille. Bon, t'as fait une bêtise. Et alors, quel enfant n'en fait pas? D'abord, tout le monde en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais en apprentissage dans son blivier décorateur à Lausanne, rue Béthusy, chez M. Delederey. Alors, des fois, je faisais des bêtises, j'étais un apprenti, un pommeau, comme on dit en Suisse. Et puis, je faisais une bêtise, alors le patron, il hurlait, tout. Et il y avait un autre ouvrier qui était là, il me dit, mais fous-toi de ça, t'es là pour en faire des bêtises, t'es un apprenti, c'est normal que tu fasses des bêtises. Alors, tu mets pas Martel en tête, c'est pas grave, apprends, puis c'est tout. Il avait raison, ce monsieur. Dieu aime sa création, ses créatures, il aime les gens. Et ce qu'il voudrait, c'est être aimé, pas craint. J'écoutais un témoignage d'un homme qui racontait comment son père battait sa mère et comment ensuite lui, il était battu et que ça a perturbé toute sa vie et tout. Et que finalement, il a terminé en prison et que c'est là qu'il a rencontré... Un homme qui faisait de la plomberie et qui l'a aidé et qui lui a prêté attention gentiment et tout, et que ça l'a sauvé parce qu'il avait un père qui était déséquilibré, et finalement sa mère elle l'a fichu à la porte, le bonhomme. C'était pas son mari. Vivre dans la peur, c'est terrible ça. Dieu veut pas qu'on vive dans la peur comme ça. Tu as fait une bêtise. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Ce que la Bible dit, c'est que quand tu as fait une bêtise, il faut que tu ailles vers lui, que tu lui avoues ta bêtise. Ou pour être plus biblique, ton péché. Péché, ça veut dire ton erreur. Et puis, il est fidèle et juste pour te pardonner, et puis il oublie, puis c'est fini. Quelqu'un me disait cette semaine, il faut que tu jettes... tout ça, toutes ces pensées dans la mer de l'oubli. Mais nous, on peut pas le faire. Comment voulez-vous qu'on oublie? Moi, j'arrive pas à oublier. Vous arrivez à oublier, vous, les choses que vous avez vécues? Certaines choses, oui. Mais il y en a d'autres. On n'oublie pas. On pardonne, d'accord, mais on n'oublie pas. Dieu, lui, il arrive à oublier vos péchés. Il est pas en colère. Il est pas contre toi. Et c'est ainsi que tu dois penser au sujet de ton père, au sujet de Dieu. Les gens pensent faux au sujet de Dieu, pour la plupart. Et c'est à cause du christianisme qui a tout faussé. Parce qu'ils ont voulu maintenir leurs fidèles par la peur. C'est pas comme ça. Pensez à tous ces pauvres croyants qui rampent devant leur créateur, qui poussent des gémissements, qui se lamente. Mais c'est terrible, ça. C'est pas comme ça que... Moi, si j'avais fait ça à mon père, à mon papa, Charles Genton, je crois que sa réaction, il m'aurait parlé une fois, deux fois, trois fois, puis après, il m'aurait fichu un coup de pied derrière en me disant, bon, écoute, redresse-toi, t'es pas une lopette. Pardon. On pourrait lui dire, j'aurais pas dû dire ça. Mais c'était son langage. Un vrai enfant de Dieu n'agit pas comme ça dans sa relation avec son Père Céleste. Il n'agit pas comme ça parce qu'il sait. Bon, Il doit tenir sa place d'enfant. On ne parle pas d'égal à égal avec Dieu. Lui, il est adulte, il a des millénaires, de l'éternité. Nous, on est des gamins. Vous serez toujours un gamin, même si vous êtes Dieu. Même si vous êtes vieille, vous serez toujours un gamin devant Dieu. Bon, alors là, je parle pas aux non-croyants, c'est pas des non-croyants que je parle. C'est une autre histoire. Eux, ils se fichent de tout, ils foutent tout en l'air, et puis après, ils accusent Dieu. Vas-y, avant Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'incroyant dit en son cœur, il n'y a pas... L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, parce qu'ils sont insensés. C'est-à-dire, ils savent pas. Ce sont des incultes. Ils ne veulent rien savoir. Bah, laissez-les dire. Bon. Si vous avez essayé de leur expliquer puis qu'ils veulent rien savoir, tant pis. Ma vision de Dieu et de ce monde, c'est une vision plus généreuse que la vision de bien des chrétiens qui n'étudient pas la Bible. Parce que il faut dire ça aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui n'étudient pas la Bible. Ils ont le petit calendrier, comment il s'appelle déjà ce petit calendrier Comment ? La bonne semence. Nous aussi on l'a. D'ailleurs, je mets souvent des pages de ce calendrier bonne semence. Il faut que vous commandiez ce calendrier. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais ne vous contentez pas de lire ce verset qui est écrit sur le calendrier. Lisez votre Bible. Étudiez aussi, pas seulement lire. Alors, beaucoup ne connaissent pas vraiment Dieu et ils ne vivent pas consciemment dans sa présence. Ma vision n'est pas la vision que les incroyants véhiculent au sujet de Dieu. Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Les incroyants parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils pressentent qu'il y a une puissance au-dessus de nous. Et puis ils disent, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas... Vous savez quoi? Leurs pauvres opinions ne sont pas intéressantes. Elles ne sont pas plus intéressantes pour moi. Je veux dire autrement. L'opinion de ces gens ne doit pas être plus intéressante pour vous que mon opinion sur la recette du lapin moutarde que je ne connais pas. Il y a quelques jours, mon frère Thierry, de Suisse, me disait qu'il était seul dans la nature. Il a fait un grand périple en Corse, ensuite dans le sud de la France, l'Espagne, ensuite là il est au Portugal, et il est avec son bus. C'est fantastique, il m'envoie des vidéos formidables. Dieu te bénisse Thierry, c'est formidable, c'est bien. C'est un chrétien que j'ai baptisé, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et il est dans la nature, il était dans la nuit, tout seul, et il était assis là, et puis il regardait la beauté de la nature et tout. Et il me dit, j'ai ressenti la présence de Dieu. Vous savez comment je suis, moi j'aime pas tellement ressentir, c'est pas... Le fait de ressentir, c'est pas une preuve, ça peut être simplement de l'émotion. Mais j'aime ça quand même, parce que je sais que c'est un homme, c'est un acteur, et il est sensible, et même physiquement, il était conscient de la présence de Dieu. Ça, je trouve ça admirable. Vous savez, à la vitesse où vont les choses, nous n'en avons plus que pour quelques années avant, avec le développement de la technologie, on ne peut plus tellement planifier l'avenir sur plusieurs décennies. Dieu, lui, il compte en millénaires. Et pour nous, ben, on doit s'y faire. Ça fait partie de l'idée d'avoir la pensée de Christ. On ne doit pas penser au jour le jour. Vous me direz, oui, mais je suis bien obligé de penser au jour le jour. Oui, bien sûr. Mais il faut avoir une vision plus large. Les civilisations apparaissent, et puis elles disparaissent, parce qu'il y a des guerres ou pas. Parce que, vous savez, la vie sur Terre, elle est soumise à des cycles gigantesques. Quand vous étudiez l'histoire de la philosophie, il y a des cycles. Et Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament la montée et la décadence de plusieurs grandes civilisations, et là on est dans la dernière. Et ces cycles sont gigantesques. Et puis ça se coupe pas d'un coup, c'est progressif. On peut même pas tellement concevoir tout ça, se situer là-dedans, un petit peu quand même. Nous, on est habitué à penser aux structures courtes. Et vous et moi, nous sommes des êtres prodigieusement inconscients et ignorants. Faut être humble. Il est donc primordial de s'initier, d'être familier avec ces dimensions de la pensée de Christ. Nous sommes à l'aube d'un grand bouleversement sur cette planète. Les gens le pressentent et ça fait peur à beaucoup de gens. Ils pressentent ça, mais comme ils connaissent pas Dieu, ça leur fout le jeton. Je les comprends. Ils ne connaissent rien à son plan. Le vrai disciple de Jésus, il connaît par morceaux ce que Dieu trouve utile de lui révéler dans la Bible. Dieu nous révèle des choses dans la Bible, mais c'est par petits morceaux, un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là. Mais on peut, finalement, c'est comme un puzzle, on peut rajouter les pièces, tu vois que ça colle, là, oui, voilà, les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, on sait où on en est, à peu près. Pas au jour près. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Je vais pas dire que c'est Claude Inerski. Ces morceaux de son plan se trouvent dans la Bible, et je ne suis pas là ce matin pour vous parler de ce plan, je suis là pour vous dire, n'ayez pas peur. Dieu a tout sous son contrôle. Ce qui vous arrive, c'est sous son contrôle. N'ayez pas peur des changements. Les changements font partie d'un long processus pour des milliards d'âmes qui se sont portées volontaires pour l'expérimenter. Moi, je me suis porté volontaire avant de venir sur la Terre, je me suis présenté comme volontaire pour venir faire l'expérience sur cette Terre. Je suis venu pour naître dans cette période-là. J'ai choisi cette période-là. Vous allez me dire, c'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu et moi. C'est notre Père, et on a discuté le coup. Vous avez discuté le coup avec Dieu pour naître dans cette période-là, là où vous êtes. Si vous êtes en Afrique, vous avez décidé d'être en Afrique. Si vous êtes en France, vous avez décidé d'être en France. Peu importe où vous êtes, vous avez décidé. Dans le Valais. Bonjour Marguerite. Bonjour tous les frères et sœurs là-bas. On a décidé. Alors maintenant, on fait des expériences, et puis il y en a des bonnes, et puis il y en a des mauvaises, et puis on acquiert la pensée de Christ au travers de la Bible, et puis on adapte notre vie, mais c'est passionnant. Bon, c'est difficile, il y a des endroits, c'est plus difficile que d'autres. Je trouve que ceux qui ont choisi de vivre en Afrique sont vraiment courageux. Parce que c'est difficile de vivre là-bas. Mais on peut s'en sortir, moi je connais des Africains qui s'en sont sortis très bien. Alors j'ai le courage de continuer à créer, j'ai le courage de continuer à participer de façon concrète dans cette vie, même si je fais des choses différentes de ce que je faisais il y a encore 6 ans, 10 ans en arrière. Il y a des choses que je faisais il y a 10 ans que je ne ferai plus. des expériences qui étaient formidables, des trucs qui étaient sensationnels, mais maintenant, ça y est, c'est dépassé, c'est fini. C'est un autre temps. Tout change. Alors, n'ayez pas peur des changements. La vie, elle est passionnante. Bon, on a commencé à l'école, on a appris des tas de choses. D'abord, on a appris à marcher avec nos parents. Enfin, moi, vous savez que je me vois toujours en train de faire mes premiers pas dans un grand couloir chez ma tante Liliane. C'était pas une tante, on l'appelait tante Liliane. C'est rigolo, je me vois toujours. Puis après, bon, ben, j'ai appris des tas d'autres choses. Et puis, j'étais à l'école, on a appris à écrire, on a appris à lire, on a appris à calculer, on a appris à mémoriser les faits historiques, la géographie. Ah, mademoiselle Bugnon, avec ses cours de géographie, je détestais ça, je déteste toujours la géographie. Bon, mais j'ai appris un minimum. Voilà, Cahors, c'est par là, non?
Oui.
C'est par là. On me dit que j'ai raison. C'est bien, j'ai fait des progrès depuis hier. On apprend des choses sur l'histoire des religions, sur la physique, sur la chimie, sur la constitution des États, l'histoire, ça c'est passionnant. Mais les choses que nous avons apprises ne sont pas, ces choses qu'on a apprises, elles ne sont pas les plus importantes. Bien sûr qu'il faut savoir compter, calculer, écrire, c'est quand même très important, mais ce n'est pas les choses les plus importantes. Ce qui est le plus important, c'est ce qui constitue la vie, ses lois. Comment appréhender ces lois? Le sens à donner à notre propre vie. Ça, c'est intéressant, mais on apprend ça. C'est pas inné. On apprend l'usage des mécanismes de la vie. On apprend pour notre bien-être, pour celui de notre famille, pour celui de nos amis, pour celui de notre prochain, des autres, on n'apprend pas seulement pour nous. Parce que bon, nous sommes réellement soumis à des lois sur cette terre. On n'y échappe pas, c'est comme ça. Mais comment les suivre si on ne les connaît pas? C'est ça le truc. Et ceux qui connaissent pas Dieu ne connaissent pas ses lois. Ils connaissent quelques lois, oui. La loi de la pesanteur. Je plaisante, hein. Mais il y a des lois dans la Bible sur la vie qui sont très importantes, qui permettent que vous ayez une vie excellente ou pas. Si certaines familles, si certaines personnes sont devenues puissantes ou à l'aise, c'est qu'ils connaissent des secrets que les ignorants ignorent. Vous savez, il y a toute une série de bouquins, ça a commencé aux États-Unis, sur la pensée positive. Mais la pensée positive, c'est tout c'est des chrétiens qui ont pompé dans la Bible toutes les bonnes lois de Dieu pour les mettre à la portée de tous sans parler de Dieu. Parce qu'il y a des gens, vous dites Dieu, ça les rebute. Donc ils ont trouvé le moyen de faire connaître les bonnes lois de Dieu sans parler de Dieu. Alors c'est très bien, mais bon, moi je préfère trouver ça dans la Bible. C'est dans la Bible, toutes ces pensées positives, elles sont dans la Bible. Je peux vous dire, j'en ai bouffé des livres de pensées positives. Mais il n'y a rien qui est mieux que la Bible. Alors, il y a des secrets que certains ont connus grâce à ces bouquins, d'autres grâce à la Bible, et puis ils sont à l'aise dans leur vie. Ils ont des problèmes, mais ils arrivent à les résoudre assez facilement. Plus facilement, du moins, que ceux qui pleurnichent, qui doutent, qui râlent, qui font du chantage au suicide, ou que sais-je. Quels sont ces secrets? Le secret des lois qui régissent ce monde. Je veux pas vous les cacher, c'est pour ça que j'enseigne depuis tant d'années. Pour que vous puissiez en savoir suffisamment pour pouvoir vous en servir à votre profit, au profit de votre famille et au profit des gens qui vous entourent, votre prochain. Alors je vous pose une question. Voulez-vous rester exploité? Parce que tout le monde râle, on est exploité. Voulez-vous rester exploité? Voulez-vous continuer à vivre étonné, stupéfait, avec de la révolte au cœur, travailler pour un salaire de misère? Ou est-ce que vous êtes prêt à utiliser les bonnes lois de Dieu à votre avantage? Moi, j'ai pas une retraite extraordinaire. J'ai vraiment une retraite. Je suis au-dessous du seuil de la pauvreté. Vous connaissez je crois qu'il s'appelle Jérôme Deluxe, qui pose des questions toujours à la télévision aux gens. Il leur demande « Vous gagnez combien ?» Alors les gens sont très gênés de répondre. Je vous dirai pas combien je gagne, mais je vous dis franchement, je vis au-dessous du seuil de la pauvreté. Et alors, je vis très bien. On vit pas très bien. On vit pas très bien. Bien sûr qu'on vit très bien. Alors, surtout, ne perdez plus votre temps. Nous savons que Dieu nous a créés. Je parle toujours aux croyants. Hein. Rappelez-vous, au début, il dit « Qui connaît la pensée de Christ ?» Personne. Mais nous, nous l'avons. Nous savons que nous avons été créés par Dieu. Eux, ils pensent que c'est venu comme ça. Par exemple, cette montre-là, elle a été créée toute seule. Le mécanisme s'est mis tout seul en place, et puis... Voilà, au fil des millénaires, ça a évolué de façon à ce que, maintenant, ça marche, ça fait tic-tac, et puis ça monte l'heure précise, à la seconde précise, ça vous donne la date. Mais c'est par hasard, il n'y a pas de Dieu, il n'y a même pas d'horloger qui a créé cette montre. Non. Ils pensent comme ça. Une preuve d'intelligence, hein. Nous savons que Dieu nous a créés, il a créé des lois, dans le but que nous gérions notre vie sur cette terre, pas pour nous embêter. C'était pas pour nous embêter. Mon papa, quand il me disait, pour jouer au foot, mets tes baskets, joue pas au foot avec tes souliers neufs que je viens de t'acheter. Il avait raison, oui ou non? Ben oui, il avait raison. Puis moi j'étais bête, alors des fois j'allais jouer au foot avec mes godasses toutes neuves, puis je revenais à la maison, elles étaient toutes... Alors je me disais, engueulais, c'était normal. Dieu nous a donné des lois pas pour nous embêter, mais pour qu'on puisse gérer notre vie ici sur cette terre. Alors n'ayez pas peur ni de Dieu, ni de ses lois, elles sont bonnes. Les gens qui ont peur, alors... Ils se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, dans les émissions de TV, ils fuient la réalité en s'étourdissant dans toutes sortes de boudoumeries, comme on dit dans mon canton de Vaud, de bêtises. Mais perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre énergie. Moi aussi, de temps en temps, je regarde un film à la télé. Et alors? Mais je perds pas mon temps. Il y a un temps pour toute chose, nous dit la Bible. Ah oui, de temps en temps j'écoute un disque, de temps en temps vous savez, quand c'est que j'écoute la musique, c'est surtout en voiture. Même plus dans mon bureau, j'écoute plus la musique dans mon bureau parce que je préfère lire, méditer. Écoutez ça, les ultra riches et les très pauvres ont un point commun. Ils ont un cerveau. Et ils ont un autre point commun, absolument certain, ils vont tous aux toilettes. Comme vous. Comment se fait-il qu'ils en sont là où ils en sont? Vous allez me dire, ouais, il y en a eu qui ont la chance de faire un héritage. Non, moi je connais des très pauvres, qui ont réussi. Comment ils ont fait? Pensez-vous que Dieu est injuste? Oubliez cette idée, elle est stupide, c'est une idée de païen. Païen, ça vient du mot paysan. J'ai rien contre les paysans, bien au contraire, que Dieu les bénisse, ils sont adorables ici, ils nous donnent des tas de trucs, on a des melons, c'est fabuleux. Le mot paysan, autrefois, ça voulait dire un culte, parce que ils n'avaient pas droit à la culture. Et ça a donné, petit à petit, le mot païen. Penser que Dieu est injuste, une idée d'un culte, de païen. C'est une idée qui ne traduit que l'apitoiement sur soi-même. S'apitoyer sur soi-même. Je me rappelle la sœur Camélia, la maman de Violette, la gitane. Un jour, j'ai dit, je veux servir Dieu. Elle me dit, alors, il y a deux possibilités. Soit tu es celui qui ramasse les autres à la petite cuillère, soit tu es quelqu'un qu'on ramasse à la petite cuillère. Choisis ce que tu veux maintenant, c'est ce que tu seras. Je dis, ben, je vais être celui qui ramasse les autres à la petite cuillère, je veux pas être ramassé à la petite cuillère, j'aurai honte. Vous voyez, vous ne devriez jamais dire je suis chrétien. Vous devriez dire je suis disciple de Jésus. Parce que ce qu'il faut dans la vie, c'est de la discipline. Pas du fatalisme. Nous nous disciplinons, nous nous soumettons aux bonnes lois de Dieu, tout ce dont nous avons besoin pour faire quelque chose de bien, nous le faisons selon ces bonnes lois, et tout ce qui est bon et mauvais se trouve en nous. C'est à nous de sortir ce qu'il y a de bon. L'autre jour, j'ai rigolé, je vais vous faire rigoler. J'ai vu la photo sur Facebook d'un enfant qui se mettait les doigts dans le nez, mais alors jusqu'au cerveau. C'était mignon comme tout. Ils avaient mis comme légende. Tout se trouve en vous, il suffit simplement d'aller le chercher. Ça m'a fait rigoler, mais ça m'a fait réfléchir. Je me dis, c'est vrai, tout est en nous. Dieu a tout mis en nous, mais c'est en jachère. Ça demande qu'à être cultivé. Ce que vous avez en vous, ça demande à être cultivé. Lire la Bible, étudier la Bible, ça vous donne une culture qui va vous donner une façon de penser, qui va vous donner une façon d'agir, qui va vous donner des habitudes de vie. Nous avons la faculté de penser. Alors, pensons consciemment au succès, même dans les moments les plus difficiles. Je me rappelle, frère Osborne, il était venu en France et il avait prêché, c'était le premier qu'il avait fait, au sujet de la dîme, où c'est écrit, apportez vos dîmes et vos offrandes et vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et puis, après, quand on s'est trouvé en personnel, en face à face, je lui ai demandé, mais ce message-là, vous l'avez prêché ici en France, mais est-ce que vous le prêchez aussi en Afrique? Il dit, mais surtout en Afrique, parce qu'ils en ont cruellement besoin. Ils en ont encore plus besoin que nous. J'ai dans mon bureau et dans ma chambre une photo d'une dame, il faudra que je vous la montre un jour. C'est une vieille dame avec un chiffon sur la tête, je ne dis pas un foulard, mais c'est un chiffon. C'est une vieille dame qui est venue vers moi après une réunion et qui m'a donné une pièce de 100 francs. Ça veut dire c'est un franc français de l'époque. Vous voyez ce que c'est? Et quelqu'un a pris une photo de ça. Au moment où elle me donnait cette... J'ai toujours gardé ça parce que, voilà, c'est une femme, elle avait compris ce que j'ai dit. Celui qui sème, il récolte. Nous avons des facultés de penser, alors pensons consciemment au succès, même quand ça va pas. Plutôt que de pleurnicher sur notre sort, pensez comme Dieu pense et faites ce que Dieu dit de faire. Pensez autrement que les perdants. Vous savez ce qui bloque l'immense majorité des gens? C'est que ils s'interdisent l'accès à ces facultés. C'est ça le problème. à cause de leur point de vue étriqué, à cause de leur tradition obsolète, à cause de leur schéma de pensée dépassé. C'est ça qui bloque les gens. C'est ça qui les bloque. C'est pas qu'ils peuvent pas, n'osent pas. Mon frère Thierry, il a fait un disque qui s'appelle Ose. J'aime bien ça. Ils osent pas, ou alors, ce qui est pire, ils sont paresseux. Dieu est votre Père, il vous veut du bien. Pensez comme ça. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs, qu'ils réalisent que ce que je leur ai dit ce matin, c'est pour leur bien, même si ça ne les a pas chatouillés sous les ailes, mais qu'ils réalisent que c'est pour leur bien, et qu'ils se mettent à faire ces choses-là d'une façon toute simple, avec amour, avec respect. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, afin qu'ils aient une vie différente, une vie abondante, telle que tu as promis que tes enfants devraient l'avoir. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Au revoir.